Merci d'écouter Radio France Internationale. 13h en temps universel. Il est 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. Des questions aux États-Unis après une nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump et la campagne qui reprend avec toujours les mêmes fausses informations sur les migrants haïtiens. Les plus hauts responsables républicains poursuivent leur campagne raciste malgré des démentis des autorités locales de l'Ohio, vous l'entendrez. Et puis notre invité nous expliquera que ce type de propos contre les Haïtiens est régulièrement instrumentalisé à des fins politiques et depuis longtemps. Enfin, l'actualité des Outre-mer, le mouvement contre la vie chère se durcit en Martinique, Tessa Gromane.
Militants ont érigé des barrages pour bloquer la circulation et des violences ont éclaté deux nuits de suite à Fort-de-France.
A tout à l'heure, on vous retrouvera dans une vingtaine de minutes. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Donald Trump a donc fait l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat.
Pardonnez-moi, oui, pour la deuxième fois en deux mois, Donald Trump a, selon le FBI, échappé à un tueur, cette fois chez lui en Floride, sur le parcours de son terrain de golf. Le FBI a annoncé l'arrestation d'un homme armé qu'il aurait pris pour cible. Mais le candidat républicain à la présidentielle est sain et sauf. Au mois de juillet, il avait survécu par miracle à un tir qui l'avait blessé à l'oreille. C'était lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. De quoi relancer à Blajounaïdi le débat sur les difficultés que pose la protection de l'ancien président.
Oui, souvenez-vous, la question avait déjà été soulevée au lendemain de la première tentative d'assassinat lors du meeting de Butler. Le FBI avait été très critiqué, une enquête ouverte et le dispositif de sécurité entourant l'ancien président renforcé. Même si à nouveau le pire a été évité, une nouvelle enquête devra déterminer comment un tueur potentiel a pu s'approcher de l'ancien président. À entendre les experts du renseignement qui s'expriment dans les médias américains depuis 24 heures, la passion de Donald Trump pour le golf est un cauchemar du point de vue de la sécurité. Sur ce type de terrain ouvert, les lignes de mire pour un tireur potentiel s'étendent sur des centaines de mètres à la ronde, avec de très nombreux angles morts. Arbres et arbustes sont parfaits pour se cacher. Le tireur de ce dimanche était positionné dans l'un d'eux, à 500 mètres à peine de l'ancien président américain. Et il est difficile de sécuriser tout le périmètre à chaque fois qu'un président veut se consacrer à sa passion de la petite balle blanche. Lorsque Barack Obama jouait à l'époque de son mandat, c'était sur un terrain militaire, forcément sécurisé. Le golf de Donald Trump à West Palm Beach est cerné de trois routes à forte circulation, impossible de toutes les fermer, a confirmé hier le shérif du comté lors d'une conférence de presse.
Merci pour toutes ces précisions, Blajounaïdi. Et puis parmi les réactions au dernier développement, celle de Joe Biden et de Kamala Harris, le président et la vice-présidente des États-Unis se sont dit soulagés que leur adversaire soit sain et sauf.
Au Canada, la popularité du Premier ministre Justin Trudeau bat de l'aile.
Oui, ce lundi, deux élections partielles pourraient confirmer son recul dans les sondages face à Pierre Poilievre. C'est son adversaire conservateur, souvent comparé d'ailleurs à Donald Trump dans le style. En croire les sondages, les libéraux au pouvoir au Canada pourraient perdre une circonscription de Montréal qu'ils détiennent de longue date. Correspondance de Pascal Guéricola.
À Montréal, dans une circonscription qui fait l'objet d'une élection partielle, la candidate libérale n'affiche même pas l'image de Justin Trudeau sur ses pancartes électorales. Manifestement, les Canadiens ne croient plus en l'avenir ensoleillé promis par le Premier ministre lors de son arrivée au pouvoir en 2015. Il accuse un retard de 20 points dans les intentions de vote face à son adversaire conservateur. Un vent de panique souffle actuellement sur le Parti libéral. Les départs se multiplient parmi le personnel politique et une quinzaine de députés ne se représenteront pas. Depuis quelques semaines, plusieurs élus demandent ouvertement le départ de leur chef face à la catastrophe anticipée. Sauf que Justin Trudeau s'accroche au pouvoir et que le temps manque pour trouver un nouveau dirigeant. Minoritaire depuis qu'un parti d'opposition lui a retiré son appui, son gouvernement pourrait devoir déclencher des élections dans les prochains mois. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Les autorités du Honduras ont promis que justice serait faite après l'assassinat d'un défenseur de l'environnement. Juan Lopez avait 46 ans. Il a été tué alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans le nord-est du pays. Il se battait notamment contre une exploitation minière installée près de chez lui dans une zone de montagne et de forêt.
L'Allemagne donne un tour de vis à sa politique migratoire.
Elle a commencé ce matin à rétablir pendant 6 mois des contrôles de police à toutes ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Des contrôles avec la France, France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont ainsi s'ajouter à ceux déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Berlin justifie sa décision en invoquant la protection de la sécurité intérieure contre les menaces du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière. La Commission européenne, elle, a réagi à ce durcissement en rappelant que de telles mesures devaient rester strictement exceptionnelles et proportionnées. L'Europe centrale et orientale compte les morts après le passage de la tempête Boris. Après 6 décès recensés en Roumanie ce week-end, un en Pologne et un en Autriche. Celle-ci, l'Autriche, a annoncé ce matin 2 nouvelles victimes, des hommes âgés de 70 et 80 ans.
Le Portugal, lui, fait face à de graves incendies.
Oui, plusieurs foyers se sont développés sous l'effet des fortes chaleurs et des vents violents. L'un d'eux, près de la ville côtière d'Aveiro, est préoccupant. L'aide européenne est réclamée par Lisbonne. Les précisions sur place de Marilyn Darcy.
L'air est devenu irrespirable et on se déplace avec des masques, tant la fumée qui recouvre les abords d'Albegaria à Velia est épaisse. 500 pompiers et 160 véhicules sont mobilisés pour combattre les différents fronts qui entourent la ville. Un combattant du feu a trouvé la mort, victime d'un malaise sur le lieu de l'un de ces incendies. 6 moyens aériens ont été mobilisés tôt ce matin lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, mais c'est insuffisant et le Portugal a sollicité l'aide de l'Union européenne pour obtenir des renforts de Canadair. Les températures qui sont repartis à la hausse, au-dessus des 30 degrés, et des vents qui continuent à souffler en rafale attisent ces feux qui sont alimentés par un combustible bien sec. Au moins 2 maisons dans des villages de la zone concernée ont brûlé. Les autorités ont réquisitionné des écoles pour héberger les habitants, le cas échéant, et les routes sont coupées ou déconseillées vers Aveiro, la capitale régionale envahie par la fumée. Dès dimanche, l'alerte aux incendies a été lancée dans l'ensemble du Portugal et des zones touristiques interdites, comme celle de Sintra, au nord de Lisbonne. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Le français Thierry Breton démissionne de son poste de commissaire européen. Il a annoncé ce matin qu'il ne siégerait pas dans la future commission, car il n'est plus en mesure d'assurer son poste au marché intérieur. La composition de la future commission n'a pas encore été présentée, mais depuis des mois, la mésentente entre Thierry Breton et la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, était de plus en plus visible. Ursula von der Leyen a fait savoir qu'elle acceptait cette démission et qu'elle remerciait Thierry Breton pour son travail. De son côté, Emmanuel Macron a proposé Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, comme commissaire à la place de Thierry Breton. Une proposition dénoncée par la gauche et l'extrême droite pour qui le coup de force d'Emmanuel Macron se poursuit.
TikTok lutte pour sa survie devant les tribunaux américains.
Oui, la plateforme chinoise conteste une loi votée au Congrès qui la menace d'interdiction aux États-Unis. Les représentants de ByteDance, maison mère de TikTok, sont sur le point d'être entendus par la cour d'appel à Washington. Gali Bonin, cette audience marque le début d'un bras de fer juridique avec le gouvernement américain.
Oui, le groupe chinois dénonce une mesure inconstitutionnelle. Selon lui, s'attaquer à TikTok, c'est s'attaquer à la liberté d'expression de 170 millions d'utilisateurs américains, un des principaux droits garantis par le texte fondateur des États-Unis. Le gouvernement américain, lui, parle d'une menace pour la sécurité nationale. Pékin pourrait utiliser l'application pour siphonner les données personnelles des usagers et s'en servir pour nuire aux intérêts américains. Les 3 juges chargés d'examiner le recours devraient rendre leur décision d'ici décembre, mais il ne s'agit que de la première manche. ByteDance et Washington semblent déterminés à se rendre jusqu'en Cour suprême pour trancher l'affaire. À l'origine du litige, une loi votée en avril par le Congrès américain. Jugée trop dangereuse, l'application sera interdite si elle ne passe pas entre des mains américaines avant le 19 janvier. Une transaction qui pourrait coûter cher, entre 20 et 100 milliards de dollars. Tout dépend si TikTok se sépare uniquement de sa filiale américaine ou si elle doit aussi vendre son précieux algorithme qui a fait sa renommée.
Merci Gali Bonin du service économique. Voilà, il est tout juste 15h09, l'heure de retrouver Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Suite et fin de RFI Midi. On va aller aux États-Unis pour commencer.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est une nouvelle journée de campagne particulière qui commence aux États-Unis au lendemain d'une nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump. Pas de tir, comme cela avait été le cas en juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie. Mais le FBI a découvert un homme armé d'un fusil d'assaut à proximité du golfe où se trouvait Donald Trump. Alors, quelles conséquences pour la campagne ? RFI a posé la question ce matin au spécialiste des États-Unis, Laurie Kenton. Voici sa réponse au micro de Nathalie Amar.
En fait, quand on regarde la séquence était du velours pour les Républicains parce qu'il y avait l'annonce du colistier, donc une grosse séquence médiatique avec J.D. Vance, puis la convention juste après. On s'est demandé s'il pourrait participer à la convention. Donc, on avait une séquence médiatique qui était déjà ultra favorable aux Républicains. Et pourtant, quand on regarde dans les sondages, bah, ça n'a pas eu un effet spectaculaire. On a quelques témoignages.
Ça a eu un effet d'image, en fait, voilà, sur l'image de l'homme qui résiste à tout.
Oui, et de ce point de vue-là, on a certains témoignages d'hommes en particulier qui nous disent « Avant, j'étais un peu indécis, mais cette image de force, de combativité, de résilience, etc., ça m'a convaincu. » On a quelques témoignages anecdotiques, mais ça ne fait pas une élection. Donc ce qu'on a vu, ça n'a pas eu vraiment un effet alors que ça aurait pu. Là, je ne pense pas que ça ait un gros effet.
Laurie Kenton, invitée de Nathalie Amar dans RFI Matin. Cette tentative d'assassinat, elle fait évidemment la une de la presse nord-américaine que vous avez lue pour nous, Arim Lipold.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Effectivement, selon le New York Times, tous les projecteurs sont à nouveau dirigés sur le Secret Service chargé de protéger les présidents et les candidats à la présidence. Critiqué après l'attentat contre Donald Trump en juillet dernier, où le candidat républicain a été touché par une balle à l'oreille, le Secret Service a considérablement renforcé son dispositif de protection, écrit le New York Times. Il n'empêche, poursuit le quotidien new-yorkais, le fait qu'un tireur ait pu se procurer un fusil semi-automatique à lunettes et se rapprocher à une distance d'environ 300 à 500 mètres de l'ancien président montre que de nombreux problèmes urgents exposés lors de la première tentative d'assassinat n'ont pas été résolus. Cet incident met aussi en lumière la difficulté pour le Secret Service de répondre à un environnement politique imprévisible et de plus en plus violent, souligne le New York Times.
Et d'ailleurs, ce journal nous apprend à l'instant que Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui le directeur de ce fameux Secret Service. D'autres journaux, Arim, se penchent sur la personnalité de l'homme qui a été arrêté hier.
Oui, il s'agit d'un Américain pro-ukrainien de 58 ans, Ryan Wesley Routh, au passé donquichotesque, comme l'écrit le Washington Post. Selon le quotidien, il a passé ses dernières années à la recherche d'une mission en essayant de rassembler une armée hétéroclite pour défendre l'Ukraine et en écrivant un livre sur ses efforts infructueux. Originaire de la Caroline du Nord, Ryan Wesley Routh a déjà eu des ennuis avec la justice. Il a fait notamment l'objet de poursuites pénales pour possession d'une arme de destruction massive selon le Washington Post. Le Miami Herald, de son côté, a également enquêté sur le suspect. Il est enregistré comme électeur indépendant, avait participé à la primaire démocrate de cette année et avait voté pour Donald Trump en 2016. Selon des messages postés sur les réseaux sociaux, Ryan Wesley Routh s'est montré cependant déçu par la présidence Trump. « Vous êtes stupide et je serai heureux quand vous partirez », a-t-il écrit, cité par le Miami Herald.
Voilà, des mots à la hauteur de tout le climat de cette campagne aux États-Unis. En témoigne par exemple la campagne de haine véhiculée par les Républicains, Donald Trump en tête, contre les migrants haïtiens. Son colistier, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, a de nouveau été interrogé sur les folles rumeurs qu'il véhicule, affirmant que les Haïtiens mangeraient les animaux domestiques des Américains, les chats, les chiens. Ce week-end, une journaliste de CNN lui a fait part des démentis apportés par les autorités locales et il a répondu...
I talked about it because you were ignoring this community. My constituents talked about
it.
It
is my responsibility.
J'en parle parce que les médias ignorent la communauté de Springfield, parce que mes administrés m'en ont parlé. Mon rôle, c'est de faire remonter leurs préoccupations ignorées par les médias. Voilà ce qu'a dit le colistier de Donald Trump. De fait, cette préoccupation, comme il le dit, fait la une de tous les journaux, de toutes les télévisions. Les attaques racistes contre les Haïtiens se poursuivent. Et malheureusement, elles ne sont pas nouvelles. C'est ce que rappelle le sociologue Sébastien Nicolas, lui qui a consacré une thèse aux stéréotypes raciaux associés à Haïti aux États-Unis. Il est au micro de Vincent Souriau.
Bonjour Sébastien Nicolas.
Bonjour.
On entend les élucubrations de Donald Trump qui répand des contre-vérités racistes envers les migrants haïtiens. Il ne fait pas ça par hasard. Il y a la présidentielle au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, derrière cette campagne politique ?
À mon sens, ça montre comment la question raciale continue à informer l'espace politique américain. C'est d'ailleurs une obsession chez Donald Trump. Et ça montre aussi comment, vous le dites très bien, des stéréotypes racistes qu'on a pu observer aux États-Unis au cours du 19e et du 20e siècle ressurgissent et irriguent les discours de l'extrême droite américaine parce que ces discours de Donald Trump sur les Haïtiens, ils sont tous sauf nouveaux. Il s'ancre dans toute une histoire qui a partie liée avec l'idéologie raciste.
Vous avez justement beaucoup travaillé sur la perception d'Haïti, en particulier à l'étranger, sur le rejet dont les Haïtiens font l'objet dans leur région et au-delà d'ailleurs. Comment se situent les États-Unis dans ce système de stigmatisation ?
Alors, ils tiennent une place très importante. Il faut savoir qu'à l'issue de la révolution haïtienne qui a conduit à l'indépendance du pays en 1804, il y a eu une logique de stigmatisation du territoire qui s'est opérée. Dans un premier temps, il a légitimé le système esclavagiste aux États-Unis en désignant Haïti comme un pays décadent, dépravé, une forme d'échec qui montre que finalement, les personnes catégorisées comme noires seraient prétendument incapables de s'auto-gouverner. Et puis, au fil de l'histoire, quand l'esclavage a été aboli, on a eu ensuite le système ségrégationniste qui s'est mis en place. Et là aussi, la figure d'Haïti aux États-Unis a été récurrente pour légitimer cette ségrégation en disant « Regardez, quand on laisse les personnes considérées comme noires se gouverner elles-mêmes, regardez ce que ça fait, donc il faut qu'on maintienne ce système en place. » Et finalement, le discours qu'on observe chez Trump aujourd'hui, c'est l'héritage direct de cette logique d'opposition entre de bons citoyens blancs, bons samaritains, prétendument, et des populations présentées comme primitive et sauvage.
Et donc, a fortiori, incapable de s'insérer comme de bons travailleurs sur le sol américain, j'imagine.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs le discours qu'ils essaient d'imposer sur Springfield. La communauté haïtienne qui s'est constituée ces dernières années a contribué à revitaliser cette ville. C'est parfaitement intégré. Et dans ces discours-là, au contraire, on voit tout un imaginaire et un ensemble de stéréotypes assignés aux Haïtiens. Je pense par exemple, historiquement, il y a la figure du zombie, du cannibale. Et là, on se rapproche un petit peu parce qu'on parle de manger des animaux. C'est quand même pas anodin. C'est pas seulement les tuer d'ailleurs, c'est les manger. On a aussi des stéréotypes aux États-Unis qui sont très courants, notamment depuis les années 70 et 80, sur des personnes qui seraient supposément malades, avec un corps qui serait sujet aux infections et aux maladies.
Là, on parle des Haïtiens toujours, hein ?
Toujours des Haïtiens, absolument.
C'est un épouvantail qu'on agite pour faire naître des fantasmes dans la tête des populations américaines.
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, je peux vous prendre un autre exemple. Quand on a eu le début de l'épidémie du sida au début des années 80, le Centre de prévention des maladies américains, le CDC, en 1983, a désigné 4 groupes à risque susceptibles, selon eux, de contracter davantage le virus du sida. On appelait ça les 4 H. Il y avait les homosexuels, les hémophiles, les drogués et les Haïtiens. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant plusieurs années aux États-Unis, les Haïtiens n'avaient pas le droit de donner leur sang. Donald Trump ne fait pas référence ici à un stigmate qui est pris de manière isolée, mais qui fait système par rapport à un imaginaire qui est beaucoup plus ancien.
Mais ce que vous montrez dans vos travaux néanmoins, c'est qu'au-delà de cette fracture, la figure d'Haïti est même discriminée au sein des communautés noires de la région, peut-être aussi des communautés américaines d'ailleurs.
Dans les Antilles, c'est tout à fait présent. Un cas qui est largement documenté et très connu, c'est en République dominicaine, évidemment, où il y a une discrimination très forte et un racisme d'État contre les Haïtiens. Mais c'est également, selon des modalités différentes, des phénomènes qu'on peut observer dans les Antilles françaises, par exemple en Guadeloupe, où il y a eu des pogroms anti-haïtiens dans les années 80 et au début des années 2000, qui reposait sur le même type de discours que c'était des populations immigrées qui allaient amener des maladies, qui allaient amener le vaudou, qui allaient amener des pratiques sataniques, qui allaient contaminer les gens.
Mais est-ce qu'il y a une manière de combattre ce discours qui est très ancré ? On vous entend bien, mais si on parle des États-Unis, on parle souvent d'un esprit émancipateur, il y aurait moyen de s'en sortir par le travail, de faire oublier ces différences, en tout cas c'est la théorie. Est-ce que vous voyez un moyen de dénouer ce nœud ?
Effectivement, ça c'est un discours raciste, mais il y a aussi des contre-discours et puis aussi des contre-histoires. Des contre-discours donc, qui disent qu'Haïti est un pays unique et exceptionnel de par son histoire, qui a quelque chose à apporter par son vécu.
Dans le sens où ils ont vaincu, une armée d'esclaves a vaincu les troupes européennes.
Absolument, ce qui était extrêmement compliqué à faire dans le contexte de l'époque.
Et ça se valorise du coup.
C'est absolument valorisé. C'est très présent notamment dans les cercles intellectuels, universitaires. Il y a toute une littérature scientifique qui émerge depuis les années 80, qui vise à restituer justement toutes ces luttes où on se rappelle que Haïti, c'est la première république noire. C'est le pays qui a réussi à s'émanciper face à l'oppression coloniale, face aux armées napoléoniennes, et aussi à pointer les discriminations dont les Haïtiens ont été victimes. C'est un objet d'étude qui est de plus en plus fréquent dans les universités américaines notamment. Et vous avez raison de dire qu'il y a aussi des exemples d'intégration aux États-Unis. On a une communauté haïtienne qui est très importante, notamment à Miami. Il y a d'autres trajectoires qui montrent que c'est justement un discours parmi d'autres et qu'il y a bien d'autres choses à dire et bien d'autres choses qui sont dites.
Merci beaucoup Sébastien Nicolas.
Sébastien Nicolas le rappelait rapidement lors de son échange avec Vincent Souriau, les migrants haïtiens contribuent à la vie économique dans leur ville d'accueil. C'est aussi ce qu'a tenu à rappeler Mike DeWine, gouverneur de l'Ohio, un républicain pourtant, qui prend clairement ses distances avec la campagne de haine menée contre les migrants haïtiens. Il était interrogé par la chaîne ABC sur les propos de Donald Trump et de son colissier. Quand on lui a demandé s'il avait des preuves, voici ce qu'il a répondu.
Non. Absolutely not. That's what the mayor said. That's what the chief of police has said. I think it's unfortunate.
Non, absolument pas. C'est ce qu'ont confirmé le maire de Springfield et le chef de la police. Je pense qu'il est malheureux d'avoir évoqué cela. Mais laissez-moi vous dire ce que l'on sait en revanche. Ces Haïtiens sont des immigrants légaux. Ils sont venus à Springfield pour travailler. L'Ohio est en train d'évoluer, et notamment Springfield, grâce à l'arrivée de nombreuses nouvelles entreprises. Ces Haïtiens y travaillent, et ce que disent ces entreprises, c'est qu'ils sont de bons travailleurs, qu'elles sont heureuses de les avoir. Et honnêtement, ça a aidé l'économie. Donc si vous regardez cela, le fait qu'ils veuillent travailler, qu'ils accordent de la valeur à leurs enfants et leur éducation, ce sont des influences positives sur notre communauté. Et tout commentaire disant le contraire est blessant.
Le gouverneur républicain de l'Ohio sur la chaîne ABC.
RFI, la radio del mundo.
On va prendre maintenant la direction du Mexique où les habitants de la capitale étaient nombreux hier pour écouter Andrés Manuel López Obrador.
Viva la independencia! Viva! Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
C'était hier soir à Mexico pour l'anniversaire de l'indépendance du Mexique. Celui que tout le monde surnomme AMLO a célébré cette journée avec le fameux grito, le cri en écho à celui qu'aurait lancé le prêtre à l'origine du soulèvement armé contre la colonisation espagnole. Et le président sortant a profité de cette occasion pour vanter son bilan économique dans un discours aux allures d'adieu pour un chef de l'État toujours très populaire. D'ailleurs, il y avait foule pour l'écouter, Gwendolina Duval.
Parmi les premières rangées, Carlos agite un drapeau à l'effigie d'AMLO, entouré d'un cœur. Il dit que c'est une manière de lui rendre l'affection qu'il a le sentiment d'avoir reçue ces 6 dernières années.
C'est sa dernière apparition en public. Enfin, il ne reste qu'à transmettre la charge présidentielle le 1er octobre à notre nouvelle présidente. Mais ensuite, nous ne le verrons plus. Il fallait être ici.
AMLO a bénéficié de plus de 60% d'opinions positives dans les sondages tout au long de son mandat. Catalina est venue de l'État de Mexico avec sa famille. C'est la première fois qu'elle assiste au cri.
Il est le meilleur président qu'on ait eu au Mexique. Il a aidé la population mexicaine de différentes façons et beaucoup de gens sont venus le remercier et lui dire au revoir.
Parfois accusé de populisme, AMLO a mené une politique sociale et d'importantes réformes. Paola a fabriqué en papier mâché une grande figurine du président qu'elle porte au-dessus de sa tête.
Je suis triste car il s'en va, mais je suis heureuse parce qu'il a tenu ses promesses. Surtout pour les pauvres, comme il dit lui-même, les pauvres d'abord.
Célébration de la nation mexicaine, cette fête de l'indépendance revêt des allures de dernier meeting présidentiel. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et on vous retrouve, Achim Lippold, vous qui avez lu la presse, vous nous le confirmez, les journaux mexicains consacrent une large page à ce discours du président sortant.
Oui, exactement. C'est partout en une de la presse mexicaine. La liesse et le patriotisme envahissent le Zocalo, donc la fameuse place devant le palais présidentiel lors du dernier cri de victoire d'AMLO. C'est ce qu'écrit la Ronada, ajoutant que le président faisait ses adieux au peuple mexicain. Quelques heures auparavant, AMLO, qui passera donc le flambeau à sa dauphine Claudia Sheinbaum dans 2 semaines, a promulgué la loi controversée de la réforme de justice unique au monde. Elle instaure l'élection de tous les juges, y compris ceux de la Cour suprême, par un vote populaire. Une loi vivement critiquée par les juristes mexicains et une bonne partie de la presse et l'université. Par exemple, met en garde contre une dérive autoritaire du gouvernement mexicain. Il se cache derrière une rhétorique qui prétend donner le pouvoir au peuple, mais en vérité, il prévoit d'attaquer le pouvoir judiciaire en profitant de la corruption, du népotisme et des privilèges, écrit le journal. Selon El Universal, lors des premières élections des juges prévues pour l'année prochaine, 2/3 des candidats seront choisis par le parti au pouvoir, Morena et ses alliés. Cela comporte le risque d'avoir des juges clairement inféodés à certains hommes politiques. politique du parti au pouvoir. Et le journal de conclure, nous aurons un pouvoir judiciaire de moins en moins indépendant et de plus en plus faible face au pouvoir politique.
Achim Lippold, votre revue de presse à retrouver sur Internet. Un mot encore de l'actualité du continent pour parler de cette fermeture redoutée. Deux hauts fourneaux mis à l'arrêt à partir d'aujourd'hui dans le sud du Chili et près de 2500 salariés de la principale aciérie du pays qui vont perdre leur travail sans savoir quand ni même si ils le retrouveront. Le site n'a pas résisté à la concurrence de l'acier chinois qui inonde le marché depuis quelques années. Et si on compte aussi les nombreux sous-traitants de l'usine et les emplois indirects, près de 20 000 personnes en tout pourraient se retrouver au chômage dans les jours et dans les semaines à venir. Le gouvernement chilien, de son côté, a jugé irresponsable la décision de l'entreprise d'arrêter les hauts fourneaux malgré les nouveaux droits de douane mis en place cette année sur l'acier chinois.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, Tessa Gromane, des barrages ont été érigés ce matin sur des lieux de forte circulation en Martinique.
Des barrages rapidement levés par les forces de l'ordre. Un mouvement de colère contre la hausse du coût de la vie et qui se durcit depuis quelques jours. Dans la nuit de vendredi à samedi, des manifestants ont tiré à balles réelles sur la façade du commissariat de Fort-de-France. Cette mobilisation contre la vie chère a débuté il y a deux semaines en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, où une opération surprise a été organisée dans un hypermarché. Une délégation des services de la consommation est allée y vérifier l'efficacité du BQP, le bouclier qualité-prix, un dispositif qui permet de contrôler le prix sur les produits de grande consommation dans les Outre-mer. Reportage.
Liste en main, caddie devant eux, le directeur de cabinet du préfet Franck Dorge, accompagné de deux inspecteurs de la dette, s'élance dans les allées.
On est à la recherche du pain lourd 500 grammes. Il est à 2,44 €. Ce n'est pas la signalétique du BQP.
Un quoi qui n'échappe pas à Virginie Elissalde. Pour l'inspectrice, sans la bonne étiquette, impossible pour le consommateur d'identifier le produit bouclier qualité-prix.
Ce n'est pas une promotion, c'est un produit justement qu'on peut retrouver hors promotion toute l'année. Et c'est ce qui garantit la stabilité des prix.
Quelques mètres plus loin, au rayon café.
On cherche le café.
100% Arabica, 250 grammes le sachet, à 3,40 €.
Nouveau problème, il manque l'étiquette et le produit n'est pas là. Cassandra, une cliente qui cherchait du café, est formelle.
Ah ben je ne l'ai jamais vu ce café. C'est toujours au-dessus de 4 €, ça c'est sûr.
Des étiquettes trop discrète, des produits manquants et des substitutions parfois improvisées. Le bouclier qualité-prix a encore du chemin à faire pour convaincre les consommateurs.
Un reportage de Florence Perroumal, Guadeloupe, La Première. Et mardi, deux experts en fiscalité mandatés par l'État arrivent en Martinique. Ils examineront les 11 propositions pour baisser le prix de 2500 produits de première nécessité. 20 représentants amérindiens de Guyane et du Suriname sont actuellement à Paris. Leur objectif, rapatrier les ossements humains de 8 Kalinia et Awarak exhibés dans la capitale au 19e siècle. Les explications d'Emma Chevalier.
Des restes humains de 8 Kalinia et Arawak se trouvent encore aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris, mais ils ne peuvent être rapatriés en Guyane. Ces Amérindiens ont été exhibés au jardin d'acclimatation et sur d'autres sites en Europe entre 1880 et 1890. Une loi votée en décembre dernier permet la restitution des ossements humains aux pays étrangers, mais pas encore aux Outre-mer. Le gouvernement a jusqu'à décembre 2024 pour mettre en place une procédure spécifique. En août dernier, un mémorial a été inauguré à Irakoubo pour rendre hommage à ces 47 Kalinia et Arawak exhibés en Europe. Ce voyage à Paris s'inscrit dans la continuité de ce travail mémoriel.
Emma Chevalier, Guyane, La Première. Voilà pour les nouvelles des Outre-mer. Bonne journée.
Merci Tessa Gromane et bonne journée à tous qui nous écoutez. Merci d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée ce lundi par Vincent Biteau. Vous restez bien sûr à l'écoute puisque dans une minute maintenant, vous retrouverez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix. Invitée aujourd'hui, la réalisatrice Valérie Donzelli dont le nouveau film Rue du Conservatoire sortira sur les écrans français mercredi. Très bonne journée à tous.
Session Lab, un podcast musical réalisé par RFI Labo avec Hortense Vol.
Son style mêle les codes du flamenco au rap et aux musiques latines. Ses textes sont poétiques et revendicatifs et sa voix est juste surpuissante. L'artiste espagnol Keral Klaus est dans Session Lab.
Retrouvez Session Lab avec Hortense Vol en podcast, en audio 3D, sur toutes les plateformes. RFI, la sélection du mois.
Aya Nakamura.
J'ai compris, tu te prends pour mon père. Avec toi, c'est le monde à l'enfer. Si je dis les choses, je me suis fâché. Moi, j'ai pas saigné pour ça. Tellement où t'es pas plaisir à faire mon poil, mais les dangers.
Lissina is Jean.
Si un jour on rencontre ma chance, même si la vous changez.
RFI Musique.
Pour pas le réel, les dangers.